J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de me convertir au personnage. Je pense qu'en combinant les deux, je suis de maîtrise des gens pour trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Capi qui vous accorde la parole. Aujourd'hui, cette émission se penche sur le secteur agricole en RDC. 23 millions de dollars américains, c'est le montant que va apporter le gouvernement congolais pour financer la campagne agricole 2012 sur toute l'étendue de la République. Selon le Premier ministre, en l'espace de 5 années, l'agriculture congolaise aura la capacité de propulser la RDC au rang des pays émergents. Comment réagissez-vous? Notre standard est déjà ouvert et faites-nous parvenir vos réactions, questions et suggestions au 081-890-6315 et vous avez également la possibilité de nous faire parvenir vos réactions à l'adresse pa@radiocapi.net et vous pouvez aussi les déposer sur notre page Facebook. Alain Goy assure la mise en onde de cette émission réalisée par Titi Mputu et Comtesse Matouba, une émission présentée par Jérôme Gembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Jérôme Gembo.
Voilà, je disais tantôt que la RDC va s'engager désormais dans le financement du secteur agricole. 23 millions de dollars américains, c'est le montant que va apporter le gouvernement congolais pour financer la campagne agricole 2012 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons tous suivi que le Premier ministre a noté ou a mentionné qu'en l'espace de 5 années, l'agriculture congolaise aura la capacité de propulser la RDC au rang des pays émergents tels que l'Inde, l'Afrique du Sud, pour ne pas les citer. Donc, nous allons recevoir vos réactions, suggestions et pourquoi pas des critiques par rapport à ce financement ou par rapport à ce qui sera fait. Notre standard, comme je l'ai dit, est déjà ouvert. Vous pouvez participer à ces débats en composant, bien entendu, le 081-890-6315 et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et vous pouvez également nous les envoyer à notre adresse pa@radiocapi.net. Voilà, nous avons en ligne Jean-Pierre qui est à Issiro. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, allô, bonjour. Bonjour à monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui, Jean-Pierre, comment réagissez-vous?
En tout cas, je suis vraiment très content d'entendre ça. Ça m'intéresse beaucoup puisque à Issiro, là où je me trouve dans les temps, a été appelé capitale de l'or vert. Et c'était grâce à la production des cafés. Et apprendre cela, ça nous plaît vraiment beaucoup et ça nous intéresse. Mais la question que nous posons est d'abord de savoir comment ça va se passer, comment ces montants vont être utilisés, puisqu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans ce domaine. Commençons d'abord par les services de l'agriculture, puisque là, nous rencontrons qu'il y a d'abord le vieillissement des personnels, il y a aussi l'absence des documentations, il y a aussi les problèmes des taxes. La population comprend plus ces domaines-là comme si c'était un domaine de taxation de la population, des taxes ou des sensibilités ou qui est de sensibiliser la population et aussi les problèmes de la route. Donc il y a plein de problèmes, nous ne savons pas où ils veulent intervenir exactement. Mais nous voulons quand même dire que dans les temps, la territoriale occupait une place en importance dans ces domaines. Et si vous voyez, vous essayez de lire l'histoire de notre pays, vous allez voir qu'il y a une partie du territoire, les chefs coutumiers et les chefs de groupement jouaient vraiment un rôle important dans ces domaines. Et nous voulons passer ici, nous voulons demander ici à notre gouvernement que nous puissions voir comment il va les responsabiliser pour que nous puissions encore rentrer dans ce domaine-là comme une compétition, comme essayer un peu de motiver pour que les chefferies et les groupements se mettent encore en œuvre et qu'on puisse renforcer, surtout rajeunir les services de l'agriculture, puisque les gens, si vous voulez essayer de défendre dans ce domaine, j'étais là, puisque moi-même je suis en train de faire mes travaux de mémoire dans ce domaine, vous allez voir que la majorité des travailleurs sont vieux, ils sont tous vieux, ils sont fatigués. Et dans des autres cas, vous trouvez qu'il n'y a même plus de personnes dans ce domaine-là. Alors nous voulons vraiment savoir qu'est-ce que notre gouvernement va exactement faire dans ce domaine.
Jean-Pierre,
oui,
quand vous parlez de personnel qui l'effectif, en fait, du personnel qui travaille dans le secteur agricole, qui pose problème, vous voulez dire quoi exactement?
Nous voulons dire ceci, il y a les agronomes. Dans chaque territoire, il y a un inspecteur de l'agriculture. Et au niveau des, il y a aussi des autres agents là-bas, parce qu'il y a tout un service au niveau des territoires. Mais au niveau des chefferies, on a les agronomes des chefferies. Et il y a aussi au niveau des groupements, des monagri. Donc, ce sont les agronomes. Ils ont pour tâche de sensibiliser la population, de vérifier les tendus qu'ils vont couper et de les amener, donc, de donner des conseils et beaucoup d'autres choses. Mais ces personnels-là, à la base même, ces personnes-là sont tous fatiguées. Il y a très longtemps qu'on a répété les gens dans ce domaine. Il y a même plus des agronomes, puisqu'il n'y a pas des écoles vraiment pour former les agronomes dans notre pays. Il y a des territoires où vous ne trouvez pas d'école d'agronomie, il y a des écoles où vous trouvez qu'il n'y a qu'une seule école, mais où vous trouvez qu'il y a encore moins des élèves dans ces écoles-là. C'est pour vous dire qu'au niveau de la base même, au niveau de la population, ils ont un sérieux problème d'assistance et d'accompagnement dans ces domaines-là de l'agriculture.
Voilà, alors Jean-Pierre, c'est vrai que vous travaillez, comme vous l'avez dit, vous faites un travail sur cette question du développement du secteur agricole, mais si peut-être vous pouvez, juste en quelques minutes, peut-être nous parler un peu des contraintes par rapport déjà au travail que vous faites, les contraintes auxquelles fait face le secteur agricole en RDC.
Moi, les travaux que je suis en train de chercher à donner un peu les rôles que je devrais jouer la territoriale dans la mise en œuvre de la politique agricole de la République démocratique du Congo, donc de décembre 2009. Et si j'ai fait aller vite pour vous dire qu'il y a des sérieux problèmes au niveau de ces domaines, c'est que la population, les plus souvent, vous allez voir si vous voyez la production agricole des territoires, vous allez voir qu'il y a des étendues que la population coupe, ils prévoient pour faire les champs, mais ils ont des sérieux problèmes pour les semences. Et ils ont des problèmes de semences, et rien que seulement les problèmes de semences qui ont résolu ça, vous allez voir qu'il y aura de l'impact dans ces domaines. Mais aussi, les problèmes de l'aménagement des routes de défense agricole. Il y a des personnes qui se mettent, qui se commandent à faire des champs dans des milliers, ils ont des productions, mais ils ont des sérieux problèmes pour apporter ça dans des milliers de consommations. Mais on a aussi autre problème qui est des investisseurs. Vous allez comprendre qu'il y a, puisque la population fait et de produire, ils sont en train de produire des cultures vivrières, alors que si la population produisait aussi les cultures taranes, vous allez voir qu'ils allaient non seulement vendre leur production vivrière, mais ils allaient aussi ils allaient consommer ça, mais aussi vendre la production de la culture taranes. Vous avez les cafés, nous avons les autres, les cafés, les palmiers, des autres choses. Donc si la population faisait ces cultures-là, ils allaient encore avoir beaucoup de revenus et ça allait leur permettre d'épargner et d'utiliser plutôt ces montants-là pour leurs économies et pour leur permettre d'évoluer. Mais comme ils ont plus la culture vivrière qu'ils sont en train de cultiver, ils utilisent ça pour consommer ou pour vendre aussi pour les enfants. Ils arrivent des fois que leur sément, ils ne gardent plus rien pour la campagne prochaine, il y a autre problème, c'est que les autorités, les chefs coutumiers, quand les agronomes, les chefferies leur donnent des rapports des garçons ou des jeunes qui ne travaillent pas, des chômeurs, au lieu de finir ou au lieu de suivre, de chercher à savoir pourquoi ces jeunes sont en train de chômer dans les chefferies, on n'a pas l'habitude de chercher à savoir pourquoi ils ne travaillent pas, de s'actionner et faire quoi. Donc, on a plus les personnes qui sont en train de vagabonder dans les chefferies et la pays.
Voilà, merci.
La pays oui. Est en train de faire
tout à fait, merci, merci Jean-Pierre.
Autre problème qui est, excusez-moi, monsieur le journaliste, autre problème qui est les problèmes des mines. Donc,
voilà, on sent des problèmes, Jean-Pierre. On va résumer un peu vos propos, Jean-Pierre, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent hein, de réagir. C'est vrai, vous avez brossé une ligne, disons, les contraintes auxquelles fait face le secteur agricole à RDC. Et là, ça nous pousse d'ailleurs à revenir sur l'autopsie du secteur agricole qui a été réalisée par un chercheur, un Kudam congolais, qui disait en RDC, le développement agricole fait face à une multitude de contraintes, notamment les infrastructures en perpétuelle dégradation, limitant l'accès au marché et aux services sociaux de base, difficulté d'approvisionnement en semences améliorées, comme vous venez de le signaler, en géniteurs performants, en intrants vétérinaires, et halieutiques, la non-maîtrise des techniques de conservation, de transformation et de stockage des produits agricoles, avec pour conséquence d'importantes pertes après récolte, effondrement du système d'encadrement des agriculteurs, vous l'avez également évoqué, persistance des conflits fonciers, difficulté d'accès aux services et financiers, tout un paquet donc de contraintes que vous avez également évoquées. Nous allons voir de l'autre côté de Kananga, Wesley est en ligne, bonjour Wesley.
Bonjour.
Wesley, comment réagissez-vous?
Oui, moi je suis en train aussi de participer, mais avec une angoisse, dans le sens que je suis technicien agricole et je vois que mon domaine est tellement délaissé. Vous savez que dans le monde entier, tout le monde le dit et tout le monde le sait. L'unique pays qui est resté aujourd'hui comme la référence, c'est la Chine. C'est-à-dire quoi? La Chine avait été un pays tellement pauvre et misérable. Et tous les Chinois se sont réunis et finalement, ils ont trouvé une résolution qui allait remettre la Chine sur les qui-vivent. C'est-à-dire quoi? Qu'on revoie la houe et la machette. C'est-à-dire promouvoir l'agriculture. Et aussi, notre pied qui peut s'égaler à la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a compris que pour son développement, il a fallu que tout le monde pense à l'agriculture. Mais aujourd'hui, notre pays est tellement vaste. Et si nous entrons dans profondeur, on trouve que c'est un pays qui se définit comme un centre géologique. C'est-à-dire un pays qui a des richesses en tout genre et en toutes sortes. Et ces richesses ne sont pas en fait mises en valeur. Pourquoi? Parce que les gens ne s'abonnent pas, les gens ne savent pas l'importance de l'agriculture. Les gens ne savent pas le contenu du développement. Or, le développement, c'est la volonté. Et la volonté ne peut pas venir du hasard. C'est un consentement qu'ils ont au fond de soi-même. Donc, notre pays a un problème. Qui est d'abord au niveau du gouvernement. Il a fallu que le gouvernement reprenne ses responsabilités. Qu'il envoie, qu'il le revoie un peu dans toutes les têtes. Dans tout le secteur, qu'il donne des matériels, qu'il donne des instruments de travail, que les gens se sentent équipés dans des matériels, justement pour promouvoir l'agriculture. Aujourd'hui, vous savez que la plupart des gens sont des chômeurs. Pourquoi ça? C'est parce qu'ils ne sont pas appelés à travailler dans leurs domaines qui leur sont respectés.
Oui, Wesley, aujourd'hui, avec 23 millions de dollars américains, c'est déjà un bon départ, c'est quand même un grand souci pour le gouvernement de pouvoir relancer le secteur.
Je vous dis que ces 23 milliards que vous parlez, vous me donnerez raison, peut-être avec les jours qui vont venir, ils ne feront rien. Ça, il faut que je vous en précise, ils ne feront rien. Ce fonds sera détourné, finalement, la vie ne sera pas. Au mieux, et on va toujours rester dans les mêmes conditions de vie. Mais pour moi, je demanderais que tout un chacun de nous prenne d'abord ses responsabilités. Que tout un chacun ait son chien. Pour qu'il ne soit pas chômeur.
Oui, mais vous savez,
ça améliore quelqu'un chômeur.
Voilà, pourquoi? Donc,
quand quelqu'un a déjà fait l'agriculture, quand quelqu'un veut se développer, il faut qu'il voie là où est la machette. Notre défi à Cannes, à la fois parce que nous avions reçu autant de spectateurs. Ces instruments pouvaient nous servir à nous développer localement. Et ouais, nous avons trouvé que ces instruments ont été détournés et ont tourné la vie de Cannes dans la mesure que les mêmes conditions déplorables de vie. Vous voyez, donc je vous dis que les Congolais se prennent lui-même en charge en évitant le chômage, en ayant un petit champ dans les postes à parcelle ou quelque part pour éviter le chômage. Ça, c'est une raison attachée au fonds qui est aujourd'hui financé. Bon, ça ne nous servira à rien. Ça ne nous servira à rien. Le fonds sera détourné avec tout ce que nous vivons comme politique au Congo. Bon, on ne peut pas en dire plus.
Voilà, là nous serons obligés de l'interrompre un peu parce que ça commence pas à se dénaturer, hein, à se détériorer la qualité de communication avec Wesley. Nous retenons que Wesley est très très pessimiste, hein, en disant que les 23 millions de dollars ne serviront pratiquement à rien, même si ces montants loués étaient bel et bien mis à la disposition du secteur. Ben voilà, selon lui, cet argent sera tout de même détourné et que les résultats sur terrain ne sera pas celui escompté. Merci Wesley. Nous avons Ernest à Matadi. Bonjour Ernest.
Bonjour, monsieur Gilles.
Oui, Ernest, comment réagissez-vous? 23 millions de dollars américains, montant que va apporter le gouvernement congolais pour financer la campagne agricole. Et selon le Premier ministre, en l'espace de 5 années, donc, l'agriculture congolaise aura la capacité de propulser la RDC au rang de pays émergents. Êtes-vous favorable, ou peut-être vous évoluez dans le sens de Wesley qui vous a précédé, qui n'est pas du tout favorable?
Je suis favorable pour l'agriculture congolaise. Je suis favorable pour que les Congolais mangent bien, qu'ils soient forts et qu'ils rendent un travail avec une valeur ajoutée de grande importance. Mais, monsieur JR, je me rappelle pendant la campagne présidentielle de la fois passée, au mois de novembre, cette radio, la Lucapi, avait disposé chaque vendredi d'émission. Et un certain vendredi, je me souviens, le thème devait se baser sur l'agriculture. 4 minutes, le président de la République avait donné son point de vue sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, nous pensons que ce qu'on avait dit à l'époque, au mois de novembre, et que le premier ministre qui va mobiliser ce montant pour l'agriculture congolaise, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il a fait l'analyse de ce qu'on a déjà consommé, les projets antérieurs, sur les tracteurs qu'on a déjà donnés dans nos territoires? À quoi cela a servi? Est-ce qu'il a analysé pourquoi cela passe dans ces tracteurs n'ont pas été mis au service? Et qu'est-ce qui a manqué? Et qui devrait faire cela? Et qui devrait accompagner les agriculteurs? Ces petits agriculteurs sont parfois abandonnés eux-mêmes, parfois mal encadrés. Ce sont de ces erreurs ou de ces ratés qu'il allait baser ou qu'il basera son action prochaine. Sinon, ça risque de consommer que l'argent est là. Mais on ne sait pas encadrer les personnes pour mettre les engins en activité. Si aujourd'hui, le Premier ministre néglige ce détail antérieur, en tout cas, je me rends compte qu'il y aura des difficultés. Parce que, à l'époque, Mobutu avait donné même des tracteurs aux députés, un peu comme ça, mais à quoi cela avait servi? Donc, nous devons repartir sur des gens de bonne conscience qui veulent vraiment servir ce pays. Mais si je ne fais pas des exercices de tourner ceci, je n'aurai jamais de sanctions au niveau du gouvernement. Il faut que la sanction, cette tolérance zéro qu'on a promis, soit une réalité et que la population soit réellement encadrée. Nous avons des siècles qui viennent faits dans ce domaine de l'agronomie, mais ils sont abandonnés et parfois lorsqu'ils gagnent $100 et qu'ils se retrouvent un matin avec beaucoup d'argent, mais ils sont incapables de tourner, ils sont enfouis. Donc voilà les éléments de base qui doivent motiver ou orienter l'action prochaine pour que nous puissions rendre ce pays agricole. Nous prenons le Bas-Congo là où je suis. Les cataractes, le Bas-Fleuve et une bonne partie de l'Ukaya. C'est vraiment une zone à 90% agricole. Mais qu'est-ce que nous faisons les notaires? Et je pense que si on veut lancer des gens sur le terrain, on va retrouver des espaces où on n'a jamais, la machette n'a jamais été passée par là depuis 1960. Donc voilà, nous voulons bien travailler, bien nourrir la population. Parce qu'un peuple en bonne santé qui mange bien, sera très fort, va se comparer comme aux Américains. Lorsqu'on ne mange pas bien, on sera toujours malade, et au lieu d'aller travailler, on sera toujours à l'hôpital. Donc voilà les problèmes que je soulève là-dessus.
Merci Ernest d'avoir appelé de Matadi, et un coucou à tous ceux qui nous suivent à Matadi. Jean-Pierre, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Radio Capté, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capté.
Voilà Jean-Pierre, comment réagissez-vous?
Bon, moi je me pose tant de questions. Est-ce que les montants que le ministère a mis pour le secteur agricole, sur quelle base vous arrivez là? Est-ce qu'il a fait ici du territoire? Bientôt, il y a des jours passés, on avait donné les tracteurs. Même ça, vous m'achetez, nous voyons des tracteurs à la gare de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'a servi? Est-ce que le ministère a tenu compte de tout ça? Mais si c'est le montant est suffisant, comment on va les répartir? Comment on va les répartir dans toute la République?
Voilà, merci Jean-Pierre d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre au 081-890-63-15 et ils peuvent également déposer leurs commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs. Aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous avons en ligne le secrétaire général à l'agriculture, M. Ali. Bonjour Ali.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de la campagne agricole qui a été lancée par le gouvernement congolais. Vous avez suivi tour à tour les auditeurs qui ont réfléchi par rapport à cette campagne. Dans les jeux, qu'est-ce qui sera fait concrètement dans cette campagne?
Oui, merci beaucoup pour la parole. D'ailleurs, je m'excuse beaucoup parce qu'il y a eu un contretemps entre vous et moi. Vous m'avez prévenu que ce serait à 11h, j'étais en route. Donc, je suis là à coup de route et dans la voiture en fait de parler au téléphone. Donc, cela étant, la campagne agricole, comme nous l'avons suivie, a été lancée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au plateau des Patriquets. C'est un coup, un signal fort que le gouvernement est tenté de remettre l'agriculture au centre de notre économie nationale. Ça a été dit, on a répété à maintes reprises que l'agriculture priorité des priorités. Beaucoup de gens ont fait des commentaires là-dessus et ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils n'ont pas vu grand chose se développer dans ce secteur. Aujourd'hui, que l'autorité, tant au niveau du président de la République que du premier ministre, ils ont, dans leurs mots, à l'investiture du président, comme au niveau de passage de son excellence, monsieur le premier ministre, au Parlement, ils ont encore une fois fait la vision au secteur agricole. Aujourd'hui, c'est chose faite avec le lancement de la campagne agricole 2012-2013. Donc, c'est une réalisation matérielle de ce qui était donc annoncé. Il y a une mobilisation des ressources qui sont déjà mises à la disposition du ministère de l'Agriculture et toute une équipe est en train de travailler à arrache-pied pour acquérir les intrants agricoles, les semences et les disponibiliser dans les 11 provinces afin que, donc, dès le mois de septembre, que tout soit mis en route afin de commencer vraiment les semis là où c'est nécessaire. Donc voilà que je vais vous dire en deux mots ce qui se passe actuellement avec le lancement de la campagne agricole.
Ben voilà, alors aujourd'hui pour réellement relancer, parce que pour répéter également le propos du chef du gouvernement congolais qui dit en l'espace de 5 années à venir, donc l'agriculture congolaise aura la capacité de propulser la RDC au rang des pays émergents. Alors la plus grande question, seulement avec le 23 millions de dollars et les 10 millions additionnels de poneys, qu'on arrivera réellement à propulser ou à développer le secteur de l'agricole, le secteur de l'agriculture en RDC?
Non, je ne crois pas qu'il faut parler dans ce sens-là. Ce n'est pas les 23 millions qui sont prévus pour les 5 ans. Les 23 millions, c'est d'abord, vous voyez que nous sommes dans un contexte où nous n'avons pas encore un budget national, donc qui soit d'application. Mais le gouvernement, avec le premier ministre, son excellence Matata Ponyo, a trouvé des ressources. Donc, mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture le 23 millions, avec les 10 millions additionnels dans le cadre de l'entretien routier, pour déjà démarrer cette campagne. Ça fait des années qu'on n'a pas eu à organiser le démarrage des campagnes agricoles. ça se faisait dans chaque coin. Ce sont les paysans qui s'organisaient eux-mêmes, qui faisaient les travaux, qui préparaient les champs, qui réunissaient les étangs, l'outillage, et commençaient à préparer les champs. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui prend l'initiative de rassembler les paysans, les producteurs, pour que nous commencions la campagne ensemble avec des visions claires. Les 23 millions, c'est pour cette année, c'est pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine. Le Premier ministre sur les champs, il a promis que nous pouvons aller jusqu'à 100 millions dans la mesure, donc dans le secteur agricole. Donc ce n'est pas du tout un jeu de mots, c'est quelque chose que nous devons encourager et que nous devons féliciter. C'est déjà ce départ que le ministre de l'Agriculture, M. Jean-Christophe Vamwiki, l'a souligné dans son mot, en retenant les grandes lignes du chef de l'État et du Premier ministre, en disant, voilà, il y a opportunité, nous avons la terre, nous avons tout ce qu'il nous faut, il nous faut des ressources. Le Premier ministre nous lance un premier jeu et dit, voilà, je vous prends un défi, je mets à votre disposition les 23 millions, plus les 10 millions d'autres. Commençons par cela, nous voyons le résultat, comment les populations paysannes, les organisations des producteurs vont prendre cette initiative, démarrer, et l'année prochaine, nous allons évaluer pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour l'année prochaine. Ça sera plus 23 millions plus 10, ça fait que 50 millions. La tendance, c'est ce que dit le Premier ministre, c'est d'aller au-delà de 100 millions pour faire transformer ce que nous avons comme ressources, donc la terre, en sortant de tout ce qu'on appelle potentiel, et arriver à avoir une production réelle à mettre à la disposition de nos populations.
Donc j'imagine qu'il
faut le prendre dans ce sens-là.
J'imagine qu'il existe déjà un calendrier agricole.
Le calendrier agricole existe, ça nous le savons depuis toujours, mais vous devez avoir ça à l'esprit que depuis un bout de temps, depuis un certain temps, il y a ce qu'on appelle le changement climatique. Il y a un glissement de ce calendrier, et que les paysans, ceux qui sont sur le terrain, ils savent très bien que c'est que là où on se préparait à s'aimer, il y a toujours un peu de doute. On doit regarder le ciel, si vraiment les pluies sont annoncées, ou ce sont seulement les avant-goûts, pour ne pas perdre les semences. Donc, nous devons tenir compte de tous ces paramètres-là, pour que les calendriers agricoles qui se trouvent déjà en glissement, soient adaptés aux réalités de chaque province et de chaque coin du pays.
Voilà, 081-890-63-15 pour les appels. Et vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capé en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, hors de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue. Fortuna, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Fortuna.
Bonjour, c'est Fortuna Koussala à Lubumbashi.
Oui, Fortuna Koussala, comment réagissez-vous?
Oui, je suis très content d'entendre que le gouvernement a mis l'argent pour le secteur des produits agricoles. Nous l'avons entendu, c'est vrai qu'il y a l'argent, le Premier ministre, pour 5 ans. Alors, mon inquiétude, c'est celle-ci. Le gouvernement congolais dit l'histoire sans qu'il soit réaliste. Il faudrait peut-être reculer, aller vers les fonds du Bandundu, du côté Aïfongila, là où l'inspecteur Idas Koussala travaille comme inspecteur chef de poule. Il faudra poser question à des experts qui sont sur le secteur agricole, comment ils font ça. Ça, c'est de un. De deux, engager des gens qui sont responsables dans cette matière-là pour que demain ou après-demain, on ne suive pas derrière le gouvernement congolais qu'ils ont promis qu'ils ne vont pas réaliser. C'est ça, peut-être, serait ma contribution.
Merci, Fortuna. Bertin, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Bertin.
Bonjour JR, bonjour à Radio Capi et bonjour à tout le monde. Bon, moi ici à Bukavu, c'est d'abord Bertin Mungombe. Je félicite et encourage l'initiative du Premier ministre pour affecter les 23 millions de dollars à l'agriculture en République démocratique du Congo. Mais ma crainte réside dans le lieu où, des fois, cet argent peut être aussi affectés, mais on ne va pas voir l'impact direct de cet argent. Je ne vais pas revenir sur les tracteurs que l'un des auditeurs a évoqué. Ici à Bukavu, nous avons vu ces tracteurs arriver et à un moment donné, ces tracteurs ont été utilisés pour le transport des bois de la forêt. Ces tracteurs sont utilisés aujourd'hui par nos aides pour l'évacuation des bouts dans les rues. C'est que moi, je dis que la première forme qui a été investie pour l'agriculture, c'était une perte. Alors, je dis que le premier ministre devrait, ou son équipe technique, devrait évaluer d'abord les besoins réels de la population pour dire nous allons affecter ces montants dans telle province, dans telle province, surtout, mais pas oublier ici, la province ici, surtout, parce que c'est un problème. Lorsque nous devons importer même les tomates, donc on ne produit absolument rien ici chez nous, tout dépend du pays voisin. C'est un peu grave. Aussi, j'aimerais proposer, si ça peut être possible, de donner cet argent aux agriculteurs, que ce ne soit pas les ministères qui gèrent, que ce ne soit pas les services de l'État qui gèrent, mais que ce soit les agriculteurs qui gèrent comme des ONG, et puis il y aura maintenant l'audit, voir est-ce que les agriculteurs ont réalisé pour ne pas retomber dans le système, je retiens encore, des tracteurs qui ont été donnés aux gens, et qui aujourd'hui ne servent que des fleurs dans des champs et ne font absolument rien. Moi, je pense que le Premier ministre devait donner cet argent peut-être aux agriculteurs, ceux qui ont des plantations, un hectare, deux, trois, et puis à la fin, on va voir qu'est-ce que les agriculteurs ont fait au lieu de donner ça au service de l'État, et l'argent va disparaître demain après demain.
Voilà, rappelons que le Premier ministre a même souligné que les 2175 tracteurs réceptionnés par le ministère de l'Agriculture puissent réellement servir à rentabiliser les secteurs agricoles dans le cadre de sa modernisation. Merci beaucoup, disons, à tous ceux qui ont intervenu dans la première série des auditeurs. Monsieur Ali, vous êtes le secrétaire général à l'Agriculture, vous avez suivi les réactions des auditeurs. Comment réagissez-vous?
Oui, je remercie beaucoup les deux intervenants, M. Fortuna et M. Berthe Mungondé. Je suis d'accord avec eux dans la réflexion de vouloir dire que nous devons absolument capitaliser ces ressources qu'on vient de mettre à la disposition du secteur agricole. Je reconnais aussi qu'ils ont parlé des tracteurs, et donc en disant même un peu très fort qu'une perte, et je ne crois pas que ce soit encore une perte, mais je reconnais la main sur le cœur qu'il y a eu des dérapages dans l'utilisation des facteurs. D'ailleurs, je peux rassurer M. Berthe Mungondé en disant ceci. Le Premier ministre, son Excellence Matata Ponyo, a donné déjà des directives fermes. Je dis bien fermes pour récupérer tous ces facteurs qui sont encore là. Ils ne sont pas, heureusement qu'on ne l'a pas tout cassé, qu'on n'a pas cassé, mais qui sont immobilisés. On va récupérer tous ces facteurs afin de mettre un programme, ce qu'on appelle les brigades agricoles. Les brigades agricoles, ce sont les brigades mécanisées, le regroupement de ces tracteurs à des points clés, et où le paysan aura son mot dans la gestion des tracteurs. Ça ne sera pas fait comme on l'a eu à les remarquer, où il y a eu des personnes qui n'ont pas qualité de l'avoir les tracteurs, parce qu'ils ont utilisé leur position politique pour les acquérir. On va récupérer tous ces tracteurs et constituer les brigades agricoles mécanisées dans les tout prochains jours. Ça, il peut se tranquilliser, ce n'est pas une perte. Ce sont les acquis qui sont là et que nous devons capitaliser pour les remettre sur le bon chemin. En ce qui concerne l'évaluation des besoins réels de population, comme il l'a dit, et la gestion des fonds des agriculteurs, donc pas les agriculteurs, non, ne croyez pas que ces fonds, on doit mettre à la disposition des services publics comme au secrétariat général pour gérer ces fonds. Nous sommes en train de nous réunir, ça fait déjà plusieurs séances que nous sommes en train d'organiser pour une gestion efficace et transparente de ces ressources. On a fait recours, je peux mettre à votre disposition cette information, au BCECO, qui doit être comme agence fiduciaire dans la gestion de ces ressources. Nous, le ministère de l'Agriculture, nous restons comme la structure technique ayant préparé la campagne. Et on ne peut pas prendre le fonds pour donner à chaque paysan. Ils sont combien en RDC? Ils sont combien de ménages agricoles qui sont dans le milieu rural? Ils sont nombreux. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit s'opérer. Mais le gouvernement, avec le BCECO, nous allons nous organiser pour mobiliser ce qu'on appelle les étrangers et outillages agricoles à mettre aux provinces par province et au niveau des organisations paysannes. Ça veut dire qu'on ne s'adresse pas directement à un petit producteur là où il se trouve dans son coin. Non. Ils doivent être regroupés à leurs besoins qui sont en train d'être centralisés province par province, que nous les avons déjà avec nous, seront satisfaits à terme des étrants et d'outillage, les semences dont ils ont besoin, selon les spécifications techniques de ces besoins au niveau des provinces. Les outillages, le matériel seront là et ça sera facile à évaluer et qui seront remis aux vrais opérateurs économiques qui sont bien identifiés au niveau de chaque province. Et ça sera fait dans une transparence totale. Donc, c'est pour vous dire que la situation des facteurs est en train d'être récupérée. Les besoins des populations, surtout des populations qui sont dans la production, sur le terrain, que ce soit des routes, que ce soit les besoins en eau potable, dans ces milieux-là, que ce soit aussi des besoins en étrang et outillage agricole, tout cela sont pris en considération. Et les ressources, on ne va pas acheter tous ces étrangs à Kinshasa, ça sera fait province par province, et chacun connaissant les coûts de ces matériels à province pour les disponibiliser à temps réel au niveau des producteurs.
Oui, oui, monsieur le secrétaire général à l'agriculture, on sait tout de même, parce que ce n'est pas un secret, que disons, sur la liste de contraintes auxquelles font face les secteurs agricoles, on peut citer notamment les problèmes d'approvisionnement en semences à améliorer. On le sait aussi que l'INERA travaillait à l'époque autrefois dans ce sens-là. Aujourd'hui, s'il faut réellement que l'agriculture arrive à propulser la RDC au rang des pays émergents, il faudrait d'abord commencer, parce que selon certains observateurs, commencer par réhabiliter l'INERA.
Vous avez raison, M. Gier, vous avez raison. Vous savez, bon, il y a peut-être que les formations ne circulent pas assez. Nous sommes en train de travailler avec l'INERA, avec la coopération technique belge, depuis déjà presque 4 ans. Et si vous allez dans certaines provinces, comme les Bas-Congo, et ceux qui sont dans les Bas-Congo, qui le suivent actuellement, ils savent qu'ils ont un projet appuyé au secteur semencier. Et il y a aussi un projet appuyé à la production végétale qui est au niveau des l'INERA. Qu'est-ce que ce sont ces deux projets-là? Avec la coopération avec le Royaume de Belgique, nous travaillons avec les agri-multiplicateurs. On forme des agri-multiplicateurs au niveau des terrains qui ne font que produire des semences selon les besoins de chaque province. Nous sommes déjà dans la province de Bandundu, la province de Bas-Congo, la province de Kasaï, la province de Katanga, où nous produisons des semences vivrières certifiées, de très bonne qualité, même les pays voisins commencent même à chercher chez nous. Ça veut dire quoi? Avec l'INERA, que nous sommes en train de réhabiliter, et vous avez raison, on ne peut pas commencer à aller dans les secteurs agricoles sans un institut de recherche agronomique, sans un système de vulgarisation qui soit efficace. Et avec l'INERA, on a réhabilité certains centres, dont ici en Boisy, nous allons à Mulungu, donc à Ngandajika, donc au Kasaï. Au Katanga, nous sommes à Kipopo et dans les autres sites, qui sont déjà avec des équipements adéquats pour les travaux des champs, pour le conditionnement des semences. Et les choses, déjà au Katanga, il y a déjà plusieurs, donc dizaines de milliers d'agri-multiplicateurs qui travaillent. À l'époque, on allait tous acheter les semences à Zambie. Mais si vous posez la question aujourd'hui, à ceux qui sont dans les Kasaï, les auditeurs sont là, s'ils peuvent me conseiller qu'ils le fassent. Mais il y a déjà des semences qui sont en train de se produire vraiment à grande quantité. Et il y a eu même des ventes. Au Katanga, on a connu plus de 300 tonnes de semences qu'on n'a pas su vendre, de très bonne qualité, qui ont été stockées. Et je crois que les auditeurs de Katanga qui me suivent, ils connaissent ça. Et qui sont, ces semences sont là parce que ça a été regroupé, qui devait être acheté par la province. Mais ça n'a pas été le cas avec l'accord du gouvernement central, du ministère de l'Agriculture. Ça n'a pas été le cas. Puis les 300 tonnes de semences sont complètement abîmées. Mais on a dû remettre encore ce producteur-là dans le circuit et pour dire qu'avec l'INERA, nous sommes déjà dans un circuit. L'INERA produit les semences de pré-base et de base. Avec les semences de pré-base et de base, qui sont vraiment des souches qui vont nous amener à produire des semences de commercialisation, ce que nous appelons R1 et R2, et qui sont maintenant multipliés par les agri-multiplicateurs que nous appelons les agri-multiplicateurs. Et au niveau de toutes ces provinces, il y a ce qu'on appelle les COPROSEM. Les COPROSEM, ce sont les conseils pour tous ceux qui sont dans les circuits de production de semences. Au niveau des provinces, ce sont des particuliers que nous assistons. C'est pour dire que le rôle de l'État est d'apporter un appui à ces agri-multiplicateurs et l'INERA qui sont en train de nous produire des semences de crébage et de base. Quand vous arrivez à Yangambi, vous allez trouver les semences de maïs, les semences de riz. Les Yangambi, les INERA étaient complètement, vraiment, donc effacés. Mais nous avons réhabilité avec l'appui du FIDA, qui est le Fonds international du développement agricole, et dans d'autres provinces là où la coopération technique belge ne se trouve pas. On a dit aussi investir dans la production de semences. Donc de ce côté-là, on peut se tranquilliser et les efforts sont en cours d'être fournis encore davantage. Dans le cadre de ce programme, il y a même tout un laboratoire pour la production de semences de la pomme de terre au niveau de Bazangungu, qui est une bonne information pour la population de Bazangungu qui produisent la pomme de terre. Et quand vous allez à Bazangungu, vous allez voir les pommes de terre qui sont de petite taille. Aujourd'hui, nous sommes en train d'amener ce laboratoire en train de produire des semences et d'améliorer la pomme de terre qui sont produites au niveau de Bazangungu, par exemple. C'est pour dire que les semences améliorées constituent pour nous une préoccupation de première envergure, parce que sans semences améliorées, sans les animaux ou les poussins des races améliorées, donc les souches améliorées, vous ne pouvez pas parler de développement et arriver dans la modernité et sortir notre pays du bourbier que nous sommes pour le moment.
Voilà, on va prendre Karine qui est à Kananga. Bonjour Karine. Oui Karine, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, bonjour.
Voilà, bonjour Karine. Comment réagissez-vous?
Bon, j'aimerais bien dire que je soutiens et j'encourage les actions du Premier ministre. Il a enfin pensé qu'avec l'agriculture, on peut réorienter notre pays qui peut développer. Nous avons un sol fertile, plus que la Chine même, je pense. Mais si nous prenons seulement conscience de notre situation, je pense que la répartition de ces fonds qui sont mis en action, ça va nous aider. Et puis, je demande encore au Premier ministre de ne pas s'arrêter là. De suivre l'évolution des travaux sur le terrain, de vérifier si l'argent est vraiment réparti comme il faut. Sinon, nous n'allons pas aboutir à la banque. Voilà, un petit peu.
Merci beaucoup, Karine. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour, J.R.
Voilà, comment
allez-vous? Bonjour, monsieur le secrétaire général, qui est un monsieur dynamique, qui est en train de nous encadrer en cette année des ignames. Pour parler des ignames. Pourquoi? Parce que la denrée manioc a présenté sur son côté nocif parce que le Congolais ne sait pas bien le traiter. Merci.
Voilà, merci beaucoup, docteur.
Oui, mais je n'ai pas parlé.
Mais allez-y, parce que nous, on va laisser dans 45 secondes.
En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, je dis ceci. Nous poumonons en serrant les côtes de ceux qui travaillent au ministère de l'Agriculture et les côtes du Premier ministre, c'est comme si le Premier ministre et le ministère de l'Agriculture doivent nous nourrir. Ce n'est pas normal. Si nous venons d'apprendre qu'il y a eu des tonnes de semences qui ont été déclarées pourries dans les entrepôts, cela signifie quoi? Le Congolais reste encore rêveur du côté de la production agricole. C'est pour dire que l'argent qu'on a donné, ce n'est pas seulement pour les tracteurs, les semences, les urinières, etc. Il faut qu'on les utilise pour nous redynamiser, nous conscientiser. Et chaque Congolais doit devenir producteur agricole. Et ce que nous oublions, nous avons nourri les alliés dans leur guerre contre Hitler. Les Congolais ont oublié ça. Et aujourd'hui, nous sommes devenus les importateurs des denrées alimentaires avec des semences qui pourrissent dans nos entrepôts. Ce n'est pas normal.
Merci beaucoup, docteur Richard. Il y a également d'autres inquiétudes hein, de la part des auditeurs. Aujourd'hui, c'est vrai, en observant ce qui s'est fait au plateau de Bateke, on se rend compte que c'est quand même un vaste projet avec l'Union européenne, notamment à Mampou, à Doumi, là où d'ailleurs le Premier ministre a lancé cette campagne agricole. On se rend compte que l'expérience des forêts artificielles déjà amorcée au niveau du plateau de Bateke marche en tout cas plutôt bien. Si on pouvait les multiplier à travers le pays, ça serait quand même une bonne chose. Monsieur Ali, vous êtes secrétaire général à l'agriculture. Un petit commentaire sur le projet Mampou et aussi à Doumi où nous avons des agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied.
Oui, merci beaucoup, Gérard. Voilà, vous êtes un bon observateur et j'apprécie vraiment votre sens d'observation. C'est vrai que il y a au niveau des Mampou, au niveau des Ibi, au niveau de bon, parce que tous les grands plateaux des Batikés, il y a ce que nous appelons le projet agroforesterie que nous faisons avec l'Union européenne. C'est à quoi consiste-t-il? C'est on se regarde en même temps l'environnement, on régénère donc les sources de production de l'oxygène et en même temps on fertilise le sol avec les masses donc de matières biologiques qui sont donc de composés des plantes, voilà. Donc c'est un projet qui nous vraiment qui tient bien la route et nous sommes en train d'entrevoir la possibilité d'amener le même type de projet d'abord dans les Bandundu, tout autour des Bandundu. Comme vous pouvez le remarquer, si vous faites la route ici Kinshasa Bandundu ou de Kinshasa Bakongo, il y a une grande déforestation, il n'y a plus d'arbres sur donc le long de la route. Tout a été coupé pour faire le bois de chauffe. Mais avec le projet agroforesterie, non seulement ça permet de replanter donc des arbres, en même temps avec des cultures au départ, en intercalaire, et puis à un certain moment, l'arbre prend de l'importance, et puis on peut couper l'arbre qui a vraiment enrichi le sol, faire du bois avec de l'arbre qu'on a coupé, et si l'espace qui est déjà rajeuni, planter encore le manioc, qui se forme donc un champ d'ouverture, et avoir des grandes quantités donc de production assez intéressantes. J'apprécie encore le docteur Richard qui a parlé de l'igname. Nous sommes en train de déclarer cette année, dans l'année prochaine, l'année de l'igname, qui est une culture qui est tout à fait un peu ignorée dans notre pays. Mais quand vous arrivez au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au Togo, en Côte d'Ivoire, des grandes variétés de lignames qui sont produites, ça constitue vraiment une source alternative en dehors du manioc et d'autres tubercules ou d'autres céréales comme aliment pour et on le produit vraiment avec moins de risques, avec moins de frais. Donc nous sommes en train donc de nous lancer dans cette dynamique là. Et que Richard a dit, il a quelque chose de très important. On doit que chaque Congolais doit se prendre pour se considérer comme producteur. Nous avons dit l'autre fois dans une émission antérieure, j'avais dit que si au niveau du Parlement, que chaque parlementaire avait ne plus que 5 hectares, que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés, que chaque ministre doit avoir un 5 hectares ou 3 hectares, et qu'il devait engager ne plus que 1000 personnes dans ces champs-là. Je vous dis bien que dans tout, même au niveau des provinces, les ministres provinciaux, le gouverneur, donc le député provincial, s'il pouvait se donner cette obligation-là à l'état du chef de l'État, à l'état du premier ministre, qui ont des fermes, parce que je connais, ils ont des fermes, et qui marchent, qui emploient les Congolais, qui produisent les produits entre sur le marché, je crois que nous ferons être utile. Moi-même, qui vous parlez, qui vous parle, je suis aussi dans la production agricole. Les manioc que je mange chez moi, je ne l'achète pas au marché. Je les produis moi-même, comme la viande de porc aussi. Donc, chacun devait se donner cette obligation-là, d'être producteur. Quand vous allez dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, monsieur Ali, s'il vous plaît, on va quand même accorder la parole aux auditeurs. Là. Il y a Delphin qui est à Lubumbashi et Henri qui est à Kananga. Bonjour Delphin.
Oui, bonjour.
Oui, comment réagissez-vous?
Oh, vraiment, nous apprécions l'idée de notre premier ministre, comme il a financé le 23 millions et les dollars sur le plan agricole. Alors, si la question est de savoir si réellement cet argent, le ministre chargé de cette affaire, finira par produire avec cet argent. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a d'autres facteurs qui ont été achetés. Premier mandat de notre président, et c'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de le faire louer par des gens privés. Et c'est pourquoi nous aussi, nous voulons demander, parce que c'est une bonne idée que le gouvernement aujourd'hui a proposé sur les plans agricoles, et aussi de faire quand même éveiller le jeune journaliste qui est aujourd'hui qui a conçu leur licence dans l'agronomie, qui peut se sortir normalement. Là, vraiment, on n'en disconvient pas sur les idées de notre premier ministre. Là, le problème est de savoir si réellement.
Cet argent sera utilisé en bon escient.
Oui, si réellement le bon temps, fixer cet argent, là, vraiment dans de bonnes conditions.
Merci beaucoup, Delphin. Merci beaucoup, Delphin. Nous prenons Henri à Kananga. Bonjour, Henri.
Ah, bonjour, la radio à Pocapi.
Oui, comment réagissez-vous?
Moi, je salue cette campagne entreprise par l'État. Et puis. que l'État ne délimite pas cette campagne à la libération de cette somme d'argent, mais aussi au gain de conscience. Les gens veulent faire la politique, les commerces, être dans les bureaux et débouche l'agriculture. Donc, que l'État gagne la volonté des gens pour s'atteler à l'agriculture. Et puis, il revoit aussi le secteur routier. Beaucoup de gens ont produit dans l'agriculture, mais par manque
de
ils vendent ces histoires-là à des très moindres prix. Alors, il dégoûte l'agriculture. Alors que l'État puisse retourner aussi à revoir les routes. Et puis, je voudrais demander à notre invité où va s'étaler principalement cette campagne, en ville ou au village.
Merci
voilà
beaucoup.
Mes préoccupations.
Merci beaucoup. Alors, Dr. Ali.
Oui.
Oui, vous avez suivi l'intervention de tout à l'heure, d'Henri. Que répondez-vous à Henri, par exemple, qui pose la question de savoir par où va commencer, au fait, cette campagne va s'exécuter en ville ou en campagne. Donc, je ne sais pas, dans des zones rurales ou dans des coins les plus reculés, ou ce sera justement en ville.
Oui, Monsieur Henri de Kananga, je remercie beaucoup, il a des très bonnes idées. Voilà, et donc vraiment ce qu'il a dit, c'est très fondamental, c'est que l'État doit se donner vraiment beaucoup de travail à donner la volonté aux populations de s'attacher à l'agriculture. Et la campagne agricole, comme ça s'appelle, ce n'est pas en ville qu'on fait la campagne agricole, non, ce n'est pas en ville. La campagne agricole, si le Premier ministre a lancé ici à Doumi, ce n'est pas d'ailleurs au centre-ville, c'est à Kinshasa rural. C'est là où ça se pratique une grande production de ce que nous consommons ici à Kinshasa, entre autres. Donc, les campagnes agricoles, ça a été lancé ici, mais toutes les provinces, et pas au niveau des chefs-lieux des provinces, mais au niveau des milieux ruraux que s'effectue les campagnes agricoles, parce que c'est là où on travaille la terre. Donc, il peut se tranquilliser là-dessus. Comme M. Delphine l'a dit aussi, la bonne utilisation des ressources, je l'ai déjà essayé d'expliquer, avec tous les mécanismes qu'on met en place, et la visibilité, je crois qu'avec la radio CAPI, qui est tout à fait une radio vigilante, comme on l'appelle, une radio phare, ils vont suivre ce que nous sommes en train de faire, et à chaque étape, donc la radio CAPI sera à mesure de dire s'il y a une dérapage ou pas, ou si nous sommes dans la bonne direction. Donc là, il faut être sûr que l'argent mis à la disposition des producteurs du secteur agricole sera bien utilisé. Et dans ce fond, la détection, ce n'est pas seulement pour la production agricole proprement dite. Il y a aussi l'addition d'eau potable en milieu rural. Il y a aussi l'accession et réhabilitation des pistes, des pistes de cette agricole et des voies navigables pour évacuation des produits ou pour acheminement des étrangers vers les centres de production. Donc, c'est dans cette optique-là que nous travaillons.
Voilà, nous avons des réactions que nous avons tirées de notre page Facebook. Kevin Chapoué de Mbandaka dit « La relance de l'agriculture est une très bonne idée si elle part de la base, c'est-à-dire des villages, vers les milieux urbains, avant d'aller vers la dimension internationale. En plus, elle devra faire l'objet d'une étude minutieuse des conditions techniques, matérielles et humaines de son implantation. » Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, en RDC. Je souhaite que l'invité du jour me contredise à ce sujet. En outre, je me permets de conclure en disant que tous les facteurs pouvant permettre de récolter un bilan négatif à ce projet pharaonique de 23 millions de dollars américains qui auraient servi à développer des projets beaucoup plus réfléchis et pouvant faire l'objet d'un suivi. Chadrak Londé de Kindu, cette initiative est salutaire, mais ma crainte est que cette somme d'argent ne puisse terminer, avoir comme destination les poches des gros poissons. Pour éviter cela, Matata Pone devra prendre des précautions, par exemple en activant un système d'antivirus très fort qui commencera à détecter et écraser toute personne de mauvaise volonté. Bishweta Adelio, ces montagnes déjà détournées, qu'il arrête avec la distraction. Jérôme Salomou, je pense que c'est une initiative à saluer car tout développement commence par le secteur primaire. Roger Mukengere de Bukavu, c'est une bonne chose si elle sera mise en application car le Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'est pas le premier à dire ce genre d'histoire, mais elles finissent pas dans les armoires. Samy Mwamba, un bon projet, mais je constate avec regret que notre gouvernement est toujours menteur. Gentil Canini de Goma, c'est une bonne initiative, mais il est important de le rappeler que la région agricole de notre pays, c'est l'Est. Qu'est-ce qui nous garantit tant que les cultivateurs sont encore campés dans les camps de déplacer des villes comme à Goma, à Kanyarushina. Voilà, docteur Alemi, on va conclure avec vous. Hein. Vous avez une minute pour conclure, après avoir écouté toutes les réactions des auditeurs que nous avons tirées de notre page Facebook.
Ok, voilà. Dans l'ensemble, je dirais que même cette phrase, un chat risqué craint l'eau froide. Ils ont raison. Ils ont raison d'être inquiets, d'avoir raison d'avoir des doutes, avoir raison d'avoir des réserves. Mais en tout cas, si un jour il y a personne qui commence une activité dans le sens d'aider les populations congolaises à se développer, alors nous sommes tous condamnés à la mort. Le Premier ministre, qui est visionnaire, qui voit et qui met les garde-fous pour que cet argent, comme M. Saloumou, les autres membres disent que l'argent est déjà dans la poche, donc qu'il se tranquillise. D'ailleurs, un seul fonds n'a pas encore quitté la banque. Pour eux. Les appels d'offres, ça se fera d'une façon nationale. Ça sera dans tous les journaux et vous le verrez. Et les opérateurs économiques qui proposeront le service, ils seront visibles parce que tout ça sera fait dans la transparence. J'ai dit, la radio Capi sera là pour nous accompagner. Oui, il n'y a pas eu à s'inquiéter pour savoir que l'argent sera détourné. Alors nous passerons ici dans 2 ou 3 mois pour savoir qui avait raison, qui n'a pas raison. Mais nous devons commencer, nous devons appuyer le Premier ministre, appuyer le ministre de l'Agriculture, qui tous les deux ont la vision du chef de l'État pour sortir notre pays de la crise alimentaire et de mettre à la disposition des populations congolaises des nourritures, et non pas des nourritures importées, mais des nourritures produites chez nous, des nourritures de biologiques, de grande valeur nutritive.
Oui, docteur Ali, nous vous gardons encore pour quelques minutes, hein, juste pour conclure également avec quelques auditeurs qui sont en ligne. Le temps pour nous de rappeler d'ailleurs à nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir les réactions à notre courriel pa@radiocapi.net ou encore nous appeler carrément au 081-893-15. Jeannot, vous êtes à Matadi. Bonjour, Jeannot.
Et bonjour, en fait, comme il me reste quelques minutes.
Non, nous allons, Jeannot, s'il vous plaît, je ne sais pas, peut-être poser une question, mais vous resterez en ligne, on va vous reprendre juste après le flash d'information, mais il est temps pour nous d'ailleurs de profiter pour faire juste un coucou hein, à tous ceux qui nous suivent à Matadi, voilà, sur le 103.5. Nous saluons également tous ces auditeurs qui sont fidèles à cette émission Parole aux auditeurs, qui ne cessent d'ailleurs de nous faire des propositions des sujets qui sont très pertinents que nous allons devoir peut-être traiter dans les jours à venir. Jeannot, gardez la ligne, nous allons vous répondre juste après le bulletin d'information. Voilà, nous allons entamer le dernier quart d'heure de cette émission, tout en vous souhaitant la bienvenue à cette émission. Voilà, donc nous avons en ligne, on a gardé d'ailleurs en ligne Jeannot qui est à Matadi, et puis Toms qui nous rejoint également, qui nous appelle de Kananga, mais tout en rappelant que nous profitons d'ailleurs pour dire merci à Bernard de Bruxelles, qui nous a appelé, qui avait tenu d'ailleurs à réagir dans cette émission. Il y a également des auditeurs qui nous ont appelé de l'Angola, qui viennent nous excuser, hein, parce que nous avons essayé de rappeler, leur numéro ne passe pas. Voilà, donc c'est avec une partie remise, on pourrait revenir sur eux, donc très prochainement. Voilà, Jeannot, vous êtes à Matadi. Bonjour, Jeannot.
Oui, bonjour, oui.
Voilà, on parlait tout au long de cette émission de 23 millions de dollars américains, un montant que va apporter le gouvernement congolais pour financer la campagne agricole 2012 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon le Premier ministre Matata Ponyo, en l'espace de 5 années, l'agriculture congolaise aura la capacité de propulser la RDC au rang des pays émergents. Comment réagissez-vous, Jeannot?
Ok, c'est vraiment une idée géniale parce que tout pays qui veut se développer doit d'abord se focaliser à la production. Et lorsque nous parlons de la production, nous voyons aussi l'agriculture. Alors, en dépit de toutes les propositions que les amis ont données, moi je trouve que j'ai une autre son de cloche. C'est-à-dire qu'il y a les 23 millions qu'on devait focaliser pour l'agriculture, mais il y a lieu, au lieu de se déparpiller dans les idées, il y a lieu peut-être que l'État pense à renouer aux plantations qui meurent dans toutes les provinces, telles que dans l'Équateur, il y a les plantations de café, de caoutchouc, et voire même au Bas-Congo, il y a des plantations de cacao aussi, dans les grandes forêts de Mayombe. Alors, si on peut se focaliser d'abord par là, peut-être nous verrons la bonne volonté du gouvernement. Mais si nous pouvons prendre, s'ils peuvent prendre tout en bloc, vous avez suivi des idées pessimistes, c'est parce que nous savons ce qui se passe. Alors, si il serait mieux peut-être pour marquer les pas, commencer d'abord par réboiser toutes les plantations de café et tout ce que nous voyons là. Là, peut-être ça peut démarrer le pays au développement et penser les autres choses après. C'est ça qui était presque mon intervention. Pensez d'abord à reboiser, renouer les plantations qui se trouvent partout par là et nous verrons la suite, quel secteur faudrait prendre pour les 5 ans à venir. Mais commencez d'abord par reboiser toutes ces plantations.
Voilà, donc le souci pour vous, Jeannot, c'est de vous faire une idée sur le chronogramme, comment le gouvernement compte travailler dans cette campagne, comment il compte aussi poser les bases. Vous avez proposé une piste, hein, notamment le reboisement de nos différentes plantations abandonnées. Vous avez cité les cas de l'Équateur et quelques cas dans la forêt de Mayombe. Pour ne pas oublier aussi la plantation Pelzec au Kasaï occidental, pratiquement à Mapangu, à Ilebo. Voilà, donc il y a pas mal de plantations, donc c'est ça votre proposition. Vous voulez qu'on commence par là, et c'est de cette façon-là que vous verrez la volonté du gouvernement de pouvoir réellement relancer le secteur agricole. Merci Jeannot d'avoir apporté cette contribution. Tom, si vous êtes à Kananga, bonjour Tom.
Ok, bonjour à la radio Capri. Bon, je vais vous rappeler que je ne suis pas à Kananga, mais je suis à Mbandaka.
Voilà, merci de ce rectificatif. Tom, vous êtes à Mbandaka, comment réagissez-vous?
Ok, merci la radio Capri et toute l'équipe de la radio Capri. Vraiment, la radio Capri fait beaucoup des émissions, vraiment qui nous aident beaucoup. Mais je suis vraiment pessimiste. En voyant vraiment les actions que le gouvernement mène. Le gouvernement peut avoir une bonne idée, mais en partant de cette idée-là, il n'arrive pas vraiment à réussir à cette action-là. Moi, je dirais ceci à ce qui concerne les montants alloués à 23 millions de dollars. Là. J'aimerais savoir cet argent-là seront partagé comment. Et je proposerai ceci. J'ai remarqué que le gouvernement a mis des tracteurs pour l'agriculture. Je suis chez nous à Mbandaka. Je vois ces tracteurs-là commencent maintenant à transporter les cailloux, les pieds. Je ne sais pas si ces tracteurs ont été venus pour transporter les cailloux, les pierres. Or, moi, je sais bien que ces tracteurs étaient venus pour l'agriculture. L'intervenant pouvait m'expliquer. En revenant à l'idée de mon prédécesseur, il a dit qu'on va revoir quand même l'exploitation. Oui, le gouvernement doit quand même avoir l'esprit de faire beaucoup de plantations. Il y a des plantations qui sont en train de chômer maintenant ici chez nous à l'Équateur. Si le gouvernement mettait quand même des moyens possibles pour qu'il puisse donc revoir les plantations là, les champs communautaires, ça sera vraiment une bonne chose. C'est vraiment ça à mon intervention.
Merci Tom, coucou à tous les Mbandakais qui nous suivent en ce moment. Docteur Ali Ramazani, vous êtes notre invité. Vous avez suivi quand même la réaction de Tom. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup encore, GR. Donc, j'ai suivi M. Jeannot qui a des bonnes idées sur les plantations. Nous devons avoir à l'esprit des choses qui sont claires. Dans la planification, on ne mélange pas les choses. Les plantations abandonnées, je crois qu'ils ont déjà fait dans toutes les 11 provinces pour les éventuriers. Nous avons maintenant tout un dossier complet concernant les plantations abandonnées qui seront déjà présentées au niveau de la décision seront prises pour que ces plantations soient réattribuées à des personnes ou des entreprises qui ont la capacité de les réhabiliter. Il n'appartient pas à l'État de réhabiliter les plantations, il n'appartient pas à l'État d'orienter nécessairement les ressources vers les cultures pérennes. Nous devons résoudre les problèmes qui sont des médias. Les premiers médias, c'est lesquels? Le premier média, c'est le produit vivrier. les produits vivriers, et c'est là où on trouve plus de 80% des personnes qui travaillent et qui nourrissent la vie des populations de ces pays. Donc, c'est ceux qui font les cultures de maïs, de riz, d'arachide, qui font l'élevage, qui font la pisciculture. Voilà, ça c'est l'essentiel. Que pour sortir de la faim, il faut commencer par là. L'importation des cultures pérennes, ça ramène des devises au pays. Mais ce sont des grandes sociétés ou des petites sociétés ou même des structures familiales qui peuvent réhabiliter les plantations et essayer donc d'exploiter ces cultures-là, donc ces produits-là, vers l'exportation ou vers l'industrie locale. Donc ce n'est pas l'état de le faire. Nous avons déjà inventorié toutes ces plantations, nous avons tous les dossiers au grand complet. Les dossiers dans la semaine prochaine ou la semaine qui suit, donc le dossier sera examiné au niveau du Conseil des ministres et donc une décision sera prise. Voilà. En ce qui concerne M. Pons, voilà, qui parle toujours de ce que nous avons déjà dit avant, c'est le pessimisme par rapport et comment on va se répartir le fonds. Je vais expliquer le fonds, on ne peut pas prendre 23 millions, c'est déjà à la queue de l'œil, commencer à prendre 100 dollars à chacun et puis commencer, vous partez à l'effet. Non, non. À chaque province, on a inventorié les besoins, les matières spécifiques des outillages et des étrangers qu'il faut, la nature de, parce qu'on a ciblé. Ce n'est pas les 23 millions que nous allons prendre de toutes les cultures du Congo pour le moment. On a ciblé les quelques cultures, donc les 5 ou 6 cultures essentielles. Les riz, les maïs, les manioc, la pomme de terre, les haricots et les cultures maraîchères, la pisciculture et la pêche, qui sont des domaines qui sont ciblés pour le moment et accordés. On ne peut pas saupoudrer les 23 millions quand on attend, on voit, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais par rapport à notre pays, ce n'est pas beaucoup d'argent pour le moment. C'est pourquoi le Premier ministre a dit on ira jusqu'au-delà de 100 millions par campagne agricole. Ça, ce n'est que le premier, donc la première démarche. Les acquisitions seront faites au niveau de chaque province dans une transparence totale avec l'appui du DCECO, que vous connaissez, c'est une structure avec le système de passation des marchés tout à fait transparente pour que nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons besoin d'être à donner aux populations qui sont capables de prendre ces étrangers, utiliser la terre et produire ce que les gens doivent manger. Pour les tracteurs et ceux qui transportent les pierres, je l'ai dit, nous sommes désolés. Il y a des hommes politiques qui ont pris les tracteurs, qui ont pris les machines, qui ont détourné de sa vocation première. Et que l'autorité a déjà donné, le premier ministre a déjà donné l'ordre de récupérer tous ces tracteurs, de constituer des brigades mécanisées, qui sont des structures qui seront mises au niveau de chaque bassin mécanisable, là où on peut travailler avec les tracteurs, parce que ne l'oublions pas, les tracteurs, ce n'est pas pour amener dans n'importe quel coin, dans la forêt ou là où il y a les marécages. Mais il y a des sites mécanisables où les tracteurs peuvent rendre des grands services et faire des grandes productions. Donc, qu'on ne reste pas pessimiste, celui qui ne tente rien, a pour qu'elle est appelée à disparaître. Le Premier ministre a lancé une idée, de poursuivre l'idée du président de la République. Le ministre de l'Agriculture s'approprie le dossier et nous sommes allés vers le vrai producteur. Je crois qu'il faut soutenir l'idée au lieu de rester pessimiste. Le pessimisme, ce n'est jamais une bonne qualité. Il faut du courage, il faut tenter, il faut aller là où c'est difficile et lever donc essayer de contourner les obstacles ou les écraser.
Voilà, nous avons également en ligne Alexis de Maniema. Alexis, rapidement, vous allez poser votre question et réfléchir rapidement, parce qu'on va conclure dans quelques minutes. Donc, vous avez 40 secondes, Alexis. Bonjour, Alexis.
Oui, bonjour. Bonjour.
Oui, allez-y, vous êtes au Maniema.
Moi, ma préoccupation, c'est de savoir d'abord, je vais demander à l'éditeur pourquoi ne pas suivre un exemple comme quoi. Et l'exemple pour moi, c'est Laurent Désiré Kabila, le président, l'ancien président, quand il faisait cette histoire-là de l'agriculture, surtout à Kanama Kassé. Pourquoi le gouvernement actuel ne peut pas faire autant que le président Laurent Désiré Kabila? Bon, je salue la démarche du gouvernement actuel, mais comme conseil, c'est quoi? Le conseil que je donnerai au gouvernement actuel, c'est après avoir fait dispatcher l'argent, je ne sais pas moi de quelle façon, mais il faut avoir un suivi, il faut qu'il y ait un organe de suivi qui doit être permanent. C'est ce qui nous manque dans notre pays. Donc, on peut relancer, on peut déclencher une opération. Maintenant, on laisse cette opération comme ça sans suivi, vous voyez que ça va nous amener aussi toujours dans le chaos. Mais c'est question d'avoir d'avoir constitué un organe de suivi, après avoir constitué cet organe de suivi-là, c'est à partir de cet organe-là qui permettra même au premier ministre, ensemble avec son gouvernement, de faire un suivi, vous voyez qu'il y aura quand même du sérieux. C'est tout ce que je peux demander à notre invité d'aujourd'hui.
Docteur Ali Ramazani, comment réagissez-vous? Merci Alexis.
Oh, merci Alexis du Maniema, vraiment que vous avez les bonnes idées. Écoutez, l'expérience du Kanyama KCC, c'était une bonne expérience, mais limitée dans l'espace et dans le temps. La population congolaise est nourrie par les petits producteurs agricoles. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Même dans le Maniema, je ne vois pas une grande structure qui peut se produire pour l'ensemble des habitants de Kindu, de Kasongo, de Kadambare, de Pangi, de partout là. Non. Je crois que dans chaque famille que vous avez à Kindu, vous avez un milieu rural, des membres de famille qui ne vivent que de l'agriculture. Et ces gens-là, il faut les assister. Parce que les petits qui produisent là, mis ensemble, en commun, c'est ce qui fait la production que nous consommons aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'importe pas le fait de manioc, ça on l'oublie. On n'importe pas le fait de, donc, le bite coûte court, les légumes là et tout ça, et même les manioc, on n'importe pas. On ne regarde que quand les choses vont mal. Nous voulons améliorer ce que nous sommes en train de faire. Les petits producteurs, s'ils sont regroupés en organisation paysanne, on les donne les moyens et nous discutons avec le programme de travail. Combien de champs de superficie peuvent le faire? Et même l'année suivante, avec le budget mécanisable, nous irons maintenant travailler sur leur terrain avec les machines agricoles que nous allons récupérer. Je crois que nous pouvons faire everything. Le type d'activité comme Kanyama KCC, c'est bon, ça nourrit les populations qui sont à Kanyama, à Kamina, ou même aux environs de Lubumbashi, mais ça délimite. Donc nous avons examiné tout cela, c'est une bonne expérience. Là où c'est possible, nous le ferons. Là où ce n'est pas possible, là où ce sont les producteurs, nous travaillons avec les producteurs. Là où il y a des grandes sociétés de production agricole, nous travaillons avec ces sociétés-là. Concernant le suivi, vous avez c'est une bonne idée que nous avons mise, nous avons eu des jours pratiquement pour mettre en place le système de suivi, de monitoring, comme on appelle, suivi, évaluation de tout ce que nous ferons étape par étape. Et ça ne sera pas évalué seulement par le ministère de l'Agriculture, non. Il y a une structure interministérielle, y compris au niveau des provinces, qui seront appelés donc à suivre et à évaluer ce que nous sommes en train de faire. Si nous réussissons cette expérience avec les 23 millions, le premier ministre a dit qu'il va faire un effort, il va sacrifier certains secteurs pour mettre encore le double de ces montants. Parce que c'est facile de dire aujourd'hui que nous allons faire venir les outillages agricoles de partout, les importer, les commander, les acheminer jusqu'au niveau de production. Dans les timings qui nous restent jusqu'au 1er septembre, c'est très court. Ils pouvaient même nous mettre 30 millions. Est-ce que sérieusement, on essaie de consommer les 30 millions? En tout cas, l'organe de suivi, comme la transparence dans ce qui sera fait, le premier ministre y tient. Ce n'est pas de l'argent qu'il a pris de bon cœur pour jeter dans la nature. Il a son cœur là-bas. Et il a mis, même au niveau de son cabinet, il y a des experts qui sont appelés à suivre ce programme pas à pas.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas d'erreurs qui seront tolérées. C'est utilisé de ce côté.
Docteur Ali Ramazani, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général à l'agriculture. Merci aussi à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Alain Ngoï qui avait assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Tito Poutou et Comtesse Matouba. Un programme présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Écoutez cette émission sur notre site web www.radiotapi.net.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Demain, Parole aux auditeurs s'intéressera à la prestation des athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Londres. La RDC n'a obtenu aucune médaille par les 4 athlètes qui ont représenté le pays à ces Jeux. Quelle est, selon vous, la cause de la faible performance des Congolais aux JO 2012 et que proposez-vous pour les prochaines rencontres? Inscrivez-vous déjà pour participer à ce débat de demain à l'adresse pa@radiotapi.net. À très bientôt. Thank you.
quand nous vous convions au point de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Mounou Baye, le porte-parole de la MONUSCO.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. Nous voulons d'abord nous excuser auprès de